à la question que j'ai souvent posée, jusqu'à quel âge porte votre souvenance? La réponse a le plus souvent été jusque vers mes 4 ans. Certaines personnes affirment se souvenir de faits remontant jusqu'à la deuxième année. Je n'ai rencontré personne dont la capacité de souvenance dépasse ce seuil. Mais est-il pensable que tout ce qui a précédé dans la vie se soit évaporé, qu'il ait disparu définitivement? J'ai parlé de la souvenance, car je fais une distinction entre mémoire et souvenance. Ces deux appellations sont ordinairement employées l'une à la place de l'autre, comme des synonymes pour désigner la même chose. En ce qui concerne les souvenirs, je fais une distinction entre les enregistrements directs et ceux provenant de tiers, se rapportant à des faits qui ont lieu dans la vie du petit enfant, mais qui lui ont été plus tard racontés. Il les a alors enregistrés et il les a conservés auprès de ses propres souvenirs. Moi-même, j'ai un certain nombre de souvenirs de ma petite enfance, dont certains se situent à l'âge de 2 ans. Je vais en citer 3 pour illustrer ce que je viens de nommer. Comme bien souvent, j'étais assis sur les genoux de mon père devant une table et sur son plateau était posée une boîte de cigarettes ouverte dans le couvercle de laquelle, sur sa face interne toute blanche, était dessiné un cheval attelé à un carrosse. Ses jambes avant et arrière étaient exagérément écartées. Le cheval et le carrosse aux grandes roues arrière, semblait flotter dans cet espace infini. Mon père me chantait une marche, en tapotant le rythme avec son index sur le plateau de la table. Tam-tam, tam-taram, tam-tam, taram-tam-tam. J'ai conservé ces impressions, à la fois sonores et visuelles, impressions personnelles, qui ne constituent pas des événements aptes à frapper quelqu'un d'autre. Ils sont indubitablement un souvenir direct. J'ai pu apprendre que mon père fumait ses cigarettes à l'époque de mes 2 ans. Cela permet de dater ce souvenir. Voici une autre image de mon album de souvenirs. Il se situe à peu près à la même époque et dans le même lieu. Après leur mariage, mes parents ont vécu quelques années dans la garçonnière de mon père. C'était le temps de la grande inflation en Allemagne qui a suivi la Première Guerre mondiale, une période d'extrême pauvreté. Ma mère avait placé une grande bassine en fer blanc, ovale, sur 2 tabourets et avait versé de l'eau froide et était allée à la cuisine voisine pour aller prendre une casserole d'eau chaude sur la cuisinière à charbon. Lorsqu'elle revint dans la chambre, elle me trouva installée dans la bassine, lui disant « Maman, je me baigne déjà ». J'imagine sa frayeur à cause du danger de mon entreprise téméraire et sa satisfaction aussi d'avoir rempli la baignoire d'eau froide. Elle m'a raconté cet événement lorsque j'étais un peu plus grand et je l'ai conservé auprès de mes enregistrements directs. Pour le petit enfant, ce n'était pas un événement particulier. Le fait d'escalader un tabouret n'a rien d'extraordinaire. Il se situe parmi toutes les expériences de l'enfant. Il n'était extraordinaire que pour l'adulte. C'est ce qui permet de le qualifier de souvenir indirect. Je veux ajouter encore une autre image. Il s'agit là aussi d'un souvenir remontant à ma 2e année. Les faits se situent dans la maison de mon grand-père. C'est ce qui permet de le situer dans le temps. J'étais donc couché, seul, dans une chambre à l'étage, tandis que mes parents bavardaient en bas avec la famille. D'un robinet mal fermé dans la salle de bain voisine, s'écoulaient des gouttes, selon un rythme irrégulier, et j'écoutais cette mélodie. Peut-être m'a-t-elle bercé jusqu'à mon endormissement, ou bien quelqu'un est passé par là et a fermé le robinet, mettant fin à ma petite musique de nuit. Personne ne m'a raconté ce qui m'a impressionné. Personne n'en a été témoin. Et ce rythme ne pouvait avoir d'importance que pour moi. Je ne sais pas comment était le lit, ni comment était la chambre, mais le rythme des gouttes m'est un souvenir précis et durable. C'est un souvenir direct, ou on peut dire de première main. J'ai à parler aussi de la mémoire, et pour cela un détour est nécessaire. Il y a de nombreuses années, lorsque j'ai créé le Clos-Lieu pour faire peindre des enfants, mon rôle de servant du jeu de peindre était ma préoccupation majeure. Mon souci était le confort de ceux qui venaient dans ce lieu. Et ils ont été nombreux dans ces années 50. 150 enfants chaque semaine. Je ne pensais rien d'autre. Je ne vivais que pour le jeu de peindre. Des centaines de tableaux se faisaient sous mes yeux et j'ai remarqué qu'ils étaient différents de ceux produits ailleurs, à la maison, au jardin d'enfants, dans d'autres institutions. Ailleurs, la trace sert à communiquer. Elle véhicule un message. Elle a pour but de montrer, d'où l'appellation courante, le dessin, car dessiner veut dire désigner, c'est-à-dire s'adresser à d'autres. Tandis que dans le Clos-Lieu apparaît une trace qui n'est pas destinée au regard d'autrui, dont la seule raison d'être est de se produire. Dans la quiétude du Clos-Lieu, la personne, la petite comme la grande, s'adonne à la spontanéité. Et elle laisse s'émaner du plus profond d'elle-même une manifestation qui échappe à la raison, qui échappe à l'intention et exprime ce qui n'a jamais pu l'être auparavant. Mais ce n'est pas un surgissement incohérent, quelque chose qui ressemblerait à un défoulement. Cette trace spontanée appartient à un code avec ses propres constituantes et qui fonctionne selon des lois qui lui sont propres. Ce code s'appelle la formulation. La formulation est un code universel. Les éléments qui la composent sont les mêmes chez tous les êtres humains, au-delà de leurs différences ethniques, culturelles et quel que soit le climat de leur lieu de vie. La trace qui émane d'eux est identique. C'est ce que je démontrerai plus loin dans cette conférence. Mais tout de suite, je tiens à faire remarquer que ce constat est d'une portée extrêmement grande, car il conduit à l'origine de la formulation, à la mémoire organique, cette mémoire que chacun possède. À côté de la souvenance, existe cet autre moyen d'enregistrement auquel aucune réflexion ne peut atteindre. Témoin quotidien de la formulation, il était évident pour moi que ce que l'enfant trace n'est pas la restitution de ce qu'il a regardé. Le meilleur exemple pour le démontrer est l'image de la maison. La maison que tous les enfants représentent et représentent de cette manière. N'est-il pas étonnant que personne n'ait remarqué que la maison dessinée par l'enfant ne ressemble pas à celle qu'il habite, ne ressemble à aucune des maisons de son environnement. Il n'y a aucun doute, l'expression n'est pas la conséquence de l'impression. Cette manifestation provient d'une autre source. D'où vient donc cette maison? La maison typée succède à une maison triangulaire. Et la maison triangulaire a d'abord été un triangle. Un triangle qui ne représente rien et qui est donc une figure primaire. Et ce triangle est issu d'une autre figure primaire, une figure toute arrondie et non anguleuse, la figure de la goutte. La figure de la goutte est une des premières figures que forme le petit enfant. Et avant de former une figure, il fait une trace arrondie qui naît d'un geste déjà contrôlé, tandis que les giroulis qui les précèdent dans cette évolution programmée sont la trace d'une gesticulation impulsive. Je voudrais ajouter qu'à côté de cette maison typée, il en existe une autre dans la formulation, la maison espace. Son évolution est également programmée. Elle se déroule parallèlement à celle de la première. Elles ont une origine commune, puis leur voie se sépare. À côté de la goutte est née la figure ronde qui évolue vers le carré. Puis vient un rectangle qui est la maison espace. Ensuite, les deux maisons s'unissent et cette réunion se fait de deux manières. C'est ce qui se voit en bas du tableau schématique. La maison typée de la formulation est faite d'un triangle au-dessus d'un carré avec généralement deux fenêtres et une porte et une cheminée qui pousse obliquement du toit triangulaire. Cette direction oblique choque la plupart des adultes. Ils pensent que l'enfant est trop bête pour savoir qu'elle risque ainsi de tomber du toit. En réalité, cette cheminée est issue du point central du triangle pour lequel, si la raison participe à la manifestation, l'enfant trouve une justification en en faisant une lucarne, un œil de bœuf. Ces apparitions et ces déroulements sont naturels et évidents pour qui en est témoin. Mais pour les apercevoir et les comprendre comme des mécanismes biologiques, il faut avoir l'esprit libre, libre de préjugés et d'idées malvenues. Il faut être libéré de ce qui a été pensé et écrit pendant des décennies et accepté par l'opinion publique. Voici un exemple d'interprétation de la maison et de sa cheminée. Exemple tiré du livre « Ce que soleil, maison et figure humaine révèlent de la maturité scolaire ». Ces trois objets ont été imposés comme éléments du test. L'interprétatrice ne prend pas en compte le fait que la cheminée est verticale, ce qui résulte d'une intervention adulte, l'habituelle correction consistant à dire à l'enfant « si ta cheminée est oblique, elle va tomber du toit ». En revanche, voici un enfant qui fait une cheminée dans sa position naturelle. L'interprétatrice dit ceci « le chapeau souligne la virilité, ce qu'indique comme un doigt pointé la cheminée placée obliquement ». Concernant l'ignorance et ses conséquences néfastes, combien d'exemples pourrais-je citer ? Des exemples empruntés à des livres, à des articles dans des magazines. Revenons donc à la formulation. La sémiologie de l'expression explique tous les phénomènes et les évolutions programmées de la formulation. Un grand nombre de figures de la formulation ont pour origine la figure ronde. C'est le cas aussi de la figure humaine, dont l'évolution se déroule sur trois voies. C'est ce qu'indique le tableau schématique qui montre trois espèces de figures humaines. J'ai mentionné la figure ronde, celle qu'on voit tout en haut de ce schéma, et précédemment la goutte. La plupart des adultes ne prennent en considération le dessin des enfants que dans la mesure où quelque chose d'identifiable est représenté. D'où leur infaillible question « Qu'est-ce que tu as voulu représenter ?» Quelque chose d'essentiel leur échappe, quelque chose d'essentiel et incommensurablement précieux. Il faut absolument savoir que la formulation commence par les figures primaires. Un certain nombre de figures qui s'imposent toutes à chaque enfant. Des figures avec lesquelles le petit enfant joue. Des années durant avec une sereine conviction. Les figures primaires naissent les unes à la suite des autres. Elles ne naissent pas de l'intention de représenter des choses. Et puis, à un moment, le petit enfant trouve une ressemblance entre des choses qu'il aperçoit dans son environnement et telles figures qu'il a tracées et qui lui sont familières. De ce constat va naître l'intention de représenter des choses. Ainsi, la figure primaire devient un objet-image. C'est ce qui a lieu ici pour la figure rayonnante qui est contenue dans l'objet-image fleur. La figure rayonnante est perpétuée dans les mains d'un personnage. Elle peut l'être dans bien d'autres images que je me propose de montrer ultérieurement. Voici une autre figure primaire, une figure ronde contenant un certain nombre de petites figures rondes. Et voici une figure humaine dont le corps est cette même figure ronde, avec une multitude de petites figures rondes à l'intérieur. Et à côté de ce personnage, voici un pommier dont la couronne est ce même contenant. Une autre figure primaire, la figure de l'échelle. Celle-ci d'un enfant parisien, et à côté de celle-ci, la même figure tracée par un enfant de la forêt vierge au Pérou. Et puis, la figure de l'échelle contenue dans ce chemin strié en tant que tracé dans une image. Et cette même figure dans les personnages au corps strié, tracée par une jeune femme de la brousse éthiopienne, et un personnage tout à fait semblable d'un enfant parisien. Il existe une figure primaire composée de trois traits assemblés. Elle est ici contenue dans des animaux tracés par un enfant nomade d'Afghanistan. Un autre enfant d'Afghanistan a fait ce personnage composé des mêmes trois traits assemblés. Et on retrouve cette même figure dans l'image de la table chez un enfant de notre société. Cette figure s'est également imposée à ce petit enfant. Il constate son émergence au-delà de son intention. Sa raison en fait un personnage. Tous les enfants jouent avec les mêmes objets-images. Qui sont les composantes d'un monde qu'ils construisent à leur mesure. Ce ne sont pas des images de fantaisie nées de l'imagination. Elles forment un répertoire commun à tous les enfants. Les figures primaires survivent dans ces objets-images typés. La figure primaire était totalement spontanée. C'est-à-dire issu seulement d'une nécessité exempte d'intention. Avec l'apparition des objets-images, commence une autre période. Maintenant se superposent des manifestations raisonnées et irraisonnées. Les premières nées de l'intention, les secondes imposées par une nécessité incontrôlée par la raison. Cependant, cet équilibre sera rompu à la fin de l'enfance. La raison prend alors le dessus et les images se transforment pour devenir de plus en plus réalistes, c'est-à-dire conformes à l'aspect réel de l'objet représenté. Cela apparaît dans les détails et dans les proportions. Voici une suite d'images d'un enfant qui témoigne de cette évolution. Et lorsque ce but est atteint, a lieu un revirement total. Les tracés, jadis cachés dans les objets images et progressivement laissés sur la touche, ressurgissent, éliminent les images intentionnelles et c'est alors une nouvelle période qui commence, celle des figures essentielles. Les figures essentielles émanent directement de la mémoire organique. Elles sont aussi spontanées que l'avaient été les figures primaires du petit enfant avant le double jeu avec les objets images et les tracés. Je dois mentionner aussi qu'à côté des figures que j'ai nommées, figures primaires d'abord, objets, images à leur suite, existent dans la formulation les facteurs d'espace. Il s'agit là aussi d'un certain nombre de phénomènes qu'il est important de connaître. Voici tout d'abord le tracé de l'arcade, avec des prétextes variés. Un pont, une limite supérieure de l'espace en forme de voûte, un arc-en-ciel. L'arcade en tant que tracé dans un chemin, dans la convergence des branches de ces deux arbres. Voici un paysage avec des montagnes, des baigneurs dans l'eau. Il contient un autre tracé, celui de l'entonnoir, que voici dénudé. Et le même tracé de l'entonnoir caché dans une autre mise en scène. Et encore cet exemple d'un entonnoir, son tracé s'impose à une grande personne en tant que figure essentielle sans l'habillage d'une image. L'espace dans la formulation forme un chapitre en soi. Son évolution se déroule à côté de celle des objets d'images. Caractéristiques et importantes sont l'existence et l'évolution programmée du ciel et de la terre. À la période des figures primaires, l'espace est encore non limité, non défini. Il n'est ni vertical ni horizontal. Il faut savoir que la notion d'espace ne s'est pas encore développée dans l'enfant. Les figures donc voisines, elles se juxtaposent. Comme d'ailleurs plus tard peuvent se multiplier les objets images dans un espace indéterminé, exemple, ce tableau d'un garçon nomade d'Afghanistan. À un moment, apparaît dans la partie supérieure de la feuille un trait plutôt vague, diffus, incertain, qui disparaît le plus souvent dans les feuilles suivantes pour reparaître un peu plus tard et il devient de plus en plus assuré. Plus tard encore, ce sera un bandeau à la bordure supérieure de l'espace, d'abord mince et qui s'élargira, et auquel fera ensuite écho une bande de limite inférieure qui, elle aussi, s'élargira progressivement. C'est ainsi que cela se passe chez chaque enfant, à la condition que la manifestation soit spontanée et non l'exécution d'un projet imposé. La limite supérieure, celle qui est le plus souvent la représentation du ciel, mais peut également être le plafond, domine sa collègue. Elle est la première à apparaître et sa croissance prime sur celle de la limite inférieure qui est figuré par la terre ou le plancher. Comme ailleurs, c'est un bandeau d'eau sous un bateau. L'évolution de l'espace est illustrée par cette suite de quatre tableaux extraits d'une longue série qui montre d'abord des objets déposés dans un espace sans limite. Quelque temps plus tard, de fines bandes en haut et en bas de la feuille, et puis leur élargissement ensuite. Ce phénomène d'espace devrait beaucoup intéresser les embryologistes, et j'espère bien attirer leur attention sur ce qu'il révèle des sensations fœtales. Je veux revenir encore une fois sur la figure rayonnante, dont j'ai dit qu'elle pouvait être le tracé dans l'objet image de la fleur. Elle peut l'être aussi dans un soleil. En même temps que de fleurs. Elle peut l'être dans les mains d'un personnage et elle peut être contenue dans une pieuvre extraite d'un grand espace marin. Ici, l'enfant a représenté un bassin avec des bateaux et des personnages alentour. Ils sont disposés comme des rayons autour de la forme ronde. Voici un jardin entouré d'une barrière. Les piquets sont en étalement autour de la forme ronde. L'importance de cette appellation, je dis étalement et non rabattement, comme cela a été dit par les premiers auteurs sur ce sujet. L'exemple suivant montre un cirque. La piste et la figure ronde, les poteaux de la tente et les spectateurs dans les gradins sont également disposés en étalement et sont l'habillage des rayons de la figure rayonnante. Tout en bas, une image faite par une jeune femme nomade dans le désert de Mauritanie. Elle représente des mangeurs de couscous autour d'un grand plat circulaire. Une illustration de plus pour montrer le tracé de la figure rayonnante dans une mise en scène. Ce n'est pas par hasard que je possède cette dernière image. Elle fait partie d'une énorme masse de documents provenant de mes séjours auprès de populations vivant dans des contrées lointaines. Je ne suis pas ethnologue. J'ai entrepris ces voyages entre 1967 et 1972 dans le cadre de mes études sur la formulation. Je me suis rendu dans ces contrées difficiles d'accès pour rencontrer des populations qui, à cette époque, n'étaient pas encore scolarisées, vivant dans le désert, la brousse, la haute montagne, la forêt vierge. J'ai passé une semaine dans chaque lieu. J'apportais tout ce dont j'avais besoin pour ma survie et une table palette pliante, légère, les couleurs, les pinceaux, le papier. Voilà comment cela s'est passé partout. Une image d'Éthiopie. Ces enfants n'avaient jamais rien tracé dans leur vie. Ils l'ont fait immédiatement dès que je leur en ai donné l'occasion. Des enfants en Afghanistan. Voici des nomades. Des enfants et des grandes personnes dans la forêt vierge en Nouvelle-Guinée. Quelques-unes des innombrables feuilles remplies de figures rayonnantes de pillets sur le balcon de ma hutte en Nouvelle-Guinée. La même abondance des figures de la formulation dans ces tableaux d'enfants d'Afghanistan. À côté de chaque feuille, l'énumération des figures primaires qu'elles contiennent. Ce sont des exemples d'authentiques manifestations spontanées. Je pourrais montrer des séries de chacun de ces enfants, qui se sont adonnés sans hésitation, sans retenue au jeu de la formulation et qui ont rempli des feuilles et des feuilles avec ces figures nées de la même nécessité que ce jeu a éveillé en eux. Chaque population a développé sa propre culture, un mode de vie adapté aux conditions climatiques. Cela concerne la manière de se nourrir, d'habiter, de se vêtir. Mais malgré ces différences notables, la trace, lorsqu'elle peut se produire, était absolument identique. Les mêmes figures émanent de chaque personne. Figures primaires d'abord, objets-images ensuite, objets-images nés de l'intention de représenter ce qui les préoccupe. Ceci est d'un enfant parisien. Et ceci provient du désert de Mauritanie. Une autre feuille du Guatemala, de la haute montagne. Et puis d'Éthiopie. Et puis d'Afghanistan. Et du Pérou, cet exemple. L'enfant nomade ne représente pas la maison typée. Mais la maison typée de la formulation ne ressemble pas à la maison qu'habite et voit l'enfant de notre société. Cette maison est déterminée par une configuration qui ne détermine pas seulement l'objet image maison, mais qui détermine tout aussi bien l'objet image personnage. Personnage au corps triangulaire, celui qui appartient à la deuxième famille de la figure humaine dans la formulation. Un enfant dans le clos lieu, à côté, un enfant du Niger et à droite, un enfant du désert de Mauritanie. Un enfant nomade du désert va-t-il représenter le bateau à voile typé de la formulation dont il ne connaît pas l'existence? Voici ce bateau que peint un enfant dans le clos lieu. Le voici sorti de son contexte, en gros plan. Cet homme dans la brousse éthiopienne, qui a peint chaque jour avec enthousiasme, a rempli l'espace avec d'innombrables traces colorées, dont l'échelle, dont l'arcade, et une figure qui ressemble au tracé du bateau à voile. Chafahir est un nomade du désert d'Afghanistan. Le chameau fait partie de son cadre de vie. Le corps de l'animal qu'il a représenté correspond à la coque du bateau. Le cavalier est comme le mât et ses bras sont comme les traits qui limitent les voiles. Extrait du tableau, voici ce détail à côté des deux exemples précédents. Des enfants dans un hameau au Mexique. Un animal au corps triangulaire, je corrige, un objet qui semble être un animal. Il contient lui aussi le tracé qui détermine le bateau à voile. Pillé, encore une fois, l'enfant de la forêt de Nouvelle-Guinée qui a rempli tant de feuilles avec des figures rayonnantes, a aussi tracé au milieu de ces figures, celles que vous voyez ici sorties de son contexte. Sporadiquement, des éléments de la formulation sont apparus de ci, de là. Nous voyons sur ce rocher en Californie des figures primaires, figures rayonnantes, arêtes, échelles, figures rondes, et aussi une arcade et un personnage typé, celui qui appartient à la troisième famille de la formulation. Plus tard également, les éléments de la formulation se sont manifestés, et tout particulièrement dans les images religieuses de l'héritage byzantin. Par exemple, l'entonnoir. L'arcade. le contenant, le rétrécissement. Mais ces manifestations n'ont pas été considérées comme les composantes de la formulation. Et elles n'ont pas été stimulées dans le rôle qu'elles jouent dans la formulation. Elles étaient comme des lapsus, des manifestations accidentelles d'une nécessité non accomplie. Elles sont en tout cas la preuve de l'existence de cette nécessité à laquelle le moyen d'expression était refusé. Cette nécessité ne peut se manifester dans toute sa dimension que depuis l'existence du clos lieu. Les composantes de la formulation s'imposent à tous les êtres humains nés d'une nécessité qui leur est commune. Mais pour que leur manifestation puisse se produire, des conditions particulières sont nécessaires. La formulation est à la fois naturelle et inéprouvée. Dans l'art, la trace est porteuse d'un message, tandis que la formulation ne s'adresse à aucun récepteur. C'est seulement lorsque la trace est exempte du rôle de la communication qu'elle peut se charger de ce que contient la mémoire organique. Elle est le seul moyen d'expression des enregistrements conservés dans la mémoire organique. Pour que la formulation puisse se produire, la personne doit se libérer de tout ce qui vient à elle. Alors, elle accède à la mémoire de son propre commencement, ce commencement qui lui était inconnu, car sa souvenance n'a pas une portée suffisante pour l'atteindre. C'est pour cela que le clos-lieu existe. Dans la quiétude et la permanence de ce lieu, la personne s'adonne à l'indicible et elle acquiert alors une insoupçonnée plénitude. L'enfant, il joue, c'est tout. Il joue et il est heureux. Mais quand je dis l'enfant, c'est aussi bien l'enfant de 5 ans que l'enfant de 50 ans. Toute personne qui vit sa trace, on éprouve un énorme bonheur. Et ça s'explique, bien sûr, puisqu'on retrouve quelque chose qui nous a échappé, qui nous semblait perdu. C'est pour ça que je parle d'un accomplissement. J'emploie cette image. Nous sommes comme un livre dont les premières pages ont été arrachées. Et quand on le lit, ben on le commence quelque part, mais pas à son commencement. Et si on retrouve ces pages, alors on a le commencement. Et c'est ce qui arrive à la personne humaine par la formulation. C'est donc quelque chose de très, très important et qui est très menacé, malheureusement, par toutes les influences auxquelles on soumet l'enfant et qui le détournent de sa spontanéité. C'était assez innocent, assez superficiel il y a 50 ans. C'était encore tolérable il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable catastrophe parce que les enfants ont perdu toute spontanéité, sont écrasés par les apprentissages et notamment par l'éducation artistique qui pèse très lourd et qui écrase leur spontanéité. Et il faut le faire savoir, il faut faire savoir que d'abord, quelque chose de précieux est menacé, qui est menacé comme le son, la nature, l'air, l'eau, la terre, comme le sont les espèces animales et botaniques. On voit des disparitions. Il faut ajouter à ce catalogue de l'écologie la formulation, c'est-à-dire l'émanation de la mémoire organique. Car si on prive l'enfant de cette manifestation, ben c'est un appauvrissement. Je dirais que tout enfant aujourd'hui, ou presque tout enfant aujourd'hui, est malheureux parce qu'il est mal traité. À force de vouloir le traiter exagérément bien, à force de vouloir le cultiver, en faire un adulte précoce, il a perdu son enfance. Non seulement il a perdu son commencement, mais il a perdu cette enfance, cette période si précieuse de la vie. Et il faut vraiment, il faut le faire savoir, parce qu'il faut rendre tout le monde conscient de ce problème. Quand on entend parler de la formulation, on ne résiste pas. C'est séduisant. Je le vois, je fais des conférences, je donne des cours, des stages. C'est quelque chose qui parle aujourd'hui à chacun. Parce que chacun aujourd'hui sait qu'il y a à chercher une solution. Il y a beaucoup de problèmes, il faut trouver des solutions. Et ce domaine-là s'ajoute à tous ceux qui préoccupent aujourd'hui à peu près chacun d'entre nous. Ces enfants-là, à l'époque où je les ai rencontrés, n'étaient pas scolarisés. Et de surcroît, et c'est pour ça que je suis allé dans ces contrées-là, ils n'avaient aucune habitude de tracer. Car ça existe. On croit que tout le monde trace dans le sable ou grave. Ou... Non, ce n'est pas comme ça. Bien sûr qu'au Pérou, il y a des gens qui ont fait des traces. Il y a un art péruvien qui est très riche. Mais il y a aussi des populations marginales auxquelles le tracé est étranger. Et c'est ça que j'ai, c'est ces populations-là que j'ai recherchées, bien sûr. Et dès qu'on aura donné l'occasion, ça jaillissait d'eux. C'était extraordinaire de voir ce surgissement en chacun. Dès que j'avais donné les moyens, dès que je leur avais donné cet instrument avec les pinceaux, avec les couleurs, avec le papier, qui leur était totalement étranger, bien sûr, ils ont tout de suite su ce qu'on pouvait en faire. Ça aussi est étrange. Je ne leur ai pas dit, vous allez tracer, vous allez tremper un pinceau, prendre de la couleur. Non, je n'ai rien dit. J'ai installé cet instrument et ils ont immédiatement su qu'on pouvait s'en servir pour faire surgir ces figures. Et ils n'en sont jamais privés. Et c'était vraiment, c'était une débauche. Ils jouaient du matin dès le lever du soleil jusqu'à ce qu'on ne voit vraiment plus rien, jusqu'à l'obscurité complète. Et tous les jours, pendant tout mon séjour. Donc c'est à la fois la pureté et l'abondance, qui est caractéristique de l'enfance. L'enfant ne se retient pas. Il donne tout son être. Il joue avec toutes ses capacités à la fois. Jean-Marie Delassus dit une chose très, très intéressante à laquelle personne ne semble avoir pensé avant lui. Il dit que l'enfant sort de cette quiétude dans laquelle il était, où il n'y avait pas de contraste. Il entre dans un monde binaire, avec les notions de chaud et froid, de agréable, désagréable, désir et satisfaction, etc. Donc obscurité, lumière, enfin tous les contrastes arrivent à l'enfant après sa naissance, alors qu'il n'existait pas avant. C'est une grosse épreuve aussi pour l'enfant qui sort de cette quiétude qui est paradisiaque. C'est ça le paradis de l'Écriture sainte. Le paradis où il n'y a pas de, où il n'y a pas de problème, où l'on vit simplement, comme ça, tranquillement, dans cette absolue quiétude. Et puis, chassé du paradis, on entre dans le monde de la binarité, avec ses contradictions, avec ses contrastes. Il n'y a pas de philosophie au départ, chez moi. Je n'ai pas cherché à mettre en pratique une idée ou une idéologie. Je suis parti d'une rencontre avec les enfants. Comme les enfants du désert ont rencontré l'instrument, c'est comme ça que j'ai rencontré les enfants. Et j'ai eu une très grande chance, parce que mon premier contact s'est passé juste après la guerre, la libération, dans une maison d'enfants pour orphelins de guerre. C'était donc les enfants qui avaient été cachés pendant la guerre et qui étaient libres tout à coup, qui renaissaient donc au lendemain de la libération. Et on m'avait demandé de les occuper. Et comme vous le savez, la France était complètement exsangue, il n'y avait plus rien. Et je cherchais comment les occuper. Il fallait les occuper entre les heures de classe et les repas. Et j'ai trouvé des bouts de crayon et puis du papier de récupération. Mais oui, moi je n'avais aucune idée, hein, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et je leur ai donné du papier et des crayons. Alors, ils se sont jetés là-dessus et pour moi c'était une révélation. J'étais si inexpérimenté que je ne savais même pas que ça peut donner un si grand plaisir aux enfants. Et puis, très étrangement, on a très vite fabriqué de la peinture. Alors que le pain était rationné, alors qu'on ne trouvait pas de chaussures, pas de vêtements, mais on a fabriqué de la peinture après la guerre en France. Et j'ai acheté des pots de peinture. Alors là, ça a été le délire. Les enfants ne voulaient plus faire que ça. Et moi, j'étais ébloui, j'étais enivré de ce que vivaient ces enfants. Et donc, il fallait organiser, il fallait avoir un lieu. J'ai donc accueilli le plus grand nombre d'enfants possible dans un espace pas très vaste. Il y avait des fenêtres. Pour gagner de la place, j'ai mis du bois, des planches devant les fenêtres parce que je pouvais prendre deux ou trois enfants de plus, et c'est comme ça qu'est né le Clos Lieu. Je ne savais pas du tout que je créais des conditions particulières, c'était uniquement pour des raisons pratiques. Et c'est après seulement que j'ai su que j'avais créé des conditions qui n'avaient jamais existé auparavant et qui permettaient une manifestation sans précédent. Puis quand la maison a commencé à fermer, parce que les enfants ont été repris par des familles, j'ai créé en ville le premier Clos Lieu, en 1948. Et puis il a déménagé plusieurs fois, mais l'intérieur est resté toujours le même. J'ai fait trois expériences tout à fait exceptionnelles. La première, donc ma première rencontre avec ces orphelins de guerre. Ma deuxième expérience exceptionnelle, c'était avec mes propres enfants qui ne sont jamais allés à l'école et qui donc étaient préservés d'influences tout à fait spontanées. Et puis, troisièmement, les gens que j'ai rencontrés dans les contrées lointaines. Et puis, entre ces expériences, bien sûr, il y a les enfants qui vivent comme la plupart des enfants qui vont à l'école, subissent donc toutes sortes d'influences et qui s'en libèrent dans le jeu de peindre. Le Clos Lieu n'est pas un lieu de thérapie, il n'est pas là pour guérir les enfants de leur mal-être, mais finalement, aujourd'hui, il a un rôle thérapeutique puisqu'il libère les enfants de ce poids énorme qui les écrase et leur redonne cette sérénité qu'on souhaiterait à tous les enfants, à tous les êtres humains. Il y a de bonnes et de mauvaises écoles. Il y a les écoles terribles, puis il y a les écoles qui le sont moins. Moi, je pense que ce n'est pas un problème aujourd'hui. Ce n'est pas ça le problème. Il faut savoir qu'il faut préserver quelque chose dans les enfants et qui est menacé par l'action de l'enseignement.